Yes! Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais trouvez-vous que les prix, là, ça coûte cher de nos jours? Les prix, tout coûte cher. Avez-vous remarqué ça? Si vous l'avez pas remarqué, vous vivez pas sur la même planète que moi. Et là, je parle pas juste des taux d'intérêt. Moi, je renouvelle mon hypothèque l'année prochaine. Déjà là, je commence à avoir des sueurs froides. OK, qu'est-ce que ça va me coûter? OK, alors, tout coûte cher. Hein? J'ai emmené des preuves. J'ai fouillé dans mon Publisac cette semaine. J'ai dit, je vais regarder les spéciaux, tu sais. Alors, je vous donnerai pas tous les spéciaux. Là, on voit qu'il y a du steak à 7 piastres, là. OK? Donc, c'est pas trop pire, là, tu sais. Alors, on se ramasse où on se dit, hey, c'est en spécial, c'est pas cher. Une livre de beurre à 4,44, c'est pas cher. Mais on s'entend qu'on l'a payé à 2 piastres, il va pas si longtemps que ça, là, tu sais. Hein, c'est vrai. Tu sais, avez-vous remarqué que dans les publicités de... Moi, j'ai remarqué ça, j'en parlais avec Pasteur Flores, quand même un scandale, là, tu sais, important, OK, dans la vie, le pain. Dans les publicités, là, les circulaires, ils mettent pas le prix du pain. Ils vont dire, pain étant spécial, c'est ainsi, il y a un rabais de 2 $, prix en magasin. Hey, quand même, ils veulent pas le mettre, le prix, ils veulent pas l'afficher, parce qu'ils vont te donner un rabais de 2 $ sur un prix qu'ils ont monté à 7 pour qu'ils te le vendent 5. Non, mais en moyenne, j'ai fait là, une petite recherche, là, j'ai comparé tous les prix, puis en moyenne, c'est à peu près 5 piastres un pain. Tu sais, 4 piastres des fois, ça dépend du pain. Hein? Des fois, on dit, hey, moi, je prends du pain, là, Costco. Moi, je pense que Costco est moins cher. OK? Ou encore, il y en a qui vont dans des places où ils réussissent à avoir de 4 pains pour pas cher. Mais ça coûte cher. Hein? Le salaire minimum à 15,25, là, tu sais, quand ton pain coûte 5 piastres, puis que tu as payé tes impôts, il te reste 5 piastres. $. OK? Quand tes enfants, là, ils mettent une tranche de pain dans la poubelle, ils l'ont gaspillé, là, tu sais. Toi, tu te dis, hey, j'ai travaillé pour cette tranche de pain-là, moi, là, là. Elle m'a coûté quelque chose, là, tu sais. Elle a une valeur, là, la tranche de pain. C'est pas comme juste rien, tu sais. Hein? Le verre de lait qu'il laisse à moitié sur la table. Hey, j'ai travaillé, j'ai sué pour avoir du lait, puis là, on va le jeter dans l'évier. C'est vrai, ça coûte cher. Tout coûte cher. Et le coût de la vie est terrible. Et on déploie beaucoup d'énergie pour pouvoir se nourrir sainement. Hier, aux nouvelles, il parlait combien des familles ont commencé à abandonner d'acheter certaines choses parce que ça coûte trop cher. Et à cause de ça, souvent, ils ont pas toutes les choses nécessaires pour se nourrir comme il faut. Hein, ils vont acheter du surgelé, ils vont acheter des choses qui sont moins bonnes pour la santé parce que faut bien qu'ils se nourrissent. Et ils vont aller dans les banques alimentaires, ils vont aller dans des places comme ça parce qu'on n'y arrive pas, même si on travaille fort, même si on travaille dur pour, vous savez, l'expression « gagner son pain », là, je pense qu'elle prend tout son sens, pas vrai? C'est difficile de gagner son pain. Le proverbe dit, il y a un proverbe qui dit « celui qui cultive sa terre est rassasié de pain ». Il faut cultiver fort de nos jours pour être rassasié. Il faut travailler vraiment fort pour être rassasié de pain. Ma question ce matin est assez simple. Pour bien vous nourrir spirituellement, êtes-vous prêt à faire des efforts? Oh, il y a un petit silence là, OK? Allez, je travaille assez dur juste pour manger, gagner ma croûte. Allez, en plus, il faut que je gagne mon pain spirituel. Eh oui. Êtes-vous prêt à faire des efforts, à faire autant d'efforts, sinon plus, que pour le pain physique? Ah, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, hein? Le pain physique. Seigneur, je veux grandir dans ma foi. Je veux du pain spirituel. Hein? Puis là, Seigneur va dire, va à l'église, lis ta Bible un peu plus. Hey, tu devrais participer à un petit groupe. Ah, Seigneur, donne-nous mon pain spirituel. Là, Seigneur dit, mais va à l'église, lis ta Bible, fais partie d'un petit groupe. Ah, Seigneur, donne-nous notre pain spirituel. Je suis tellement sec, j'ai faim. Donne-nous mon pain quotidien spirituel. Va à l'église, lis ta Bible, fais partie d'un petit groupe. Le titre de mon message ce matin est tout simple. Prends-tu le temps de bien nourrir ton âme? Prends-tu le temps de bien nourrir ton âme? Et on va regarder dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, vous savez, la multiplication des pains. Je pense que ça va être à propos. Là. Multiplier le pain, c'est ainsi, on aimerait ça. Hein? Tu prends une croûte ce matin, j'ai ouvert le pain. Là. Je me dis, mais ça me serait le fun que. Toujours, il y a tout le temps. Tu sais? Non, il vient vide, il faut que je n'achète un autre. Là, tu sais? ça serait bien, vraiment bien que ce miracle-là arrive de nos jours. Hein? Vous savez, quand on lit l'Évangile de Jean, on voit que c'est un évangile qui n'est pas comme les autres, est un peu spécial, je sais, vous le savez déjà, je suis sûr que pasteur Florian et d'autres pasteurs vous l'ont dit, l'Évangile de Jean, ce n'est pas comme les synoptiques, elle est différente. Jean a choisi des choses, il avait un plan, il avait une idée dans sa tête, il voulait que les gens soient convertis, il voulait que les gens connaissent Dieu et tout cela. Et quand on lit Jean va nous présenter Jésus de différentes façons, de différentes manières. Okay? Par exemple, en Jean 8, ça nous dit que Jésus est la lumière du monde. En Jean 10, qu'il est la porte des brebis. En Jean 10 encore, il est le bon berger. En Jean 11, la résurrection et la vie. En Jean 14, 6, on le connaît, je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein? Dans Jean 15, je suis le cep. Vous savez, quand vous lisez l'Évangile de Jean, vous allez voir, Jésus est présenté de différents angles et il va utiliser soit des miracles, des paraboles ou des discours de Jésus pour illustrer le propos. C'est comme si l'Évangile est divisé en sections, puis là, il va nous présenter Jésus de certaines façons. Il va mettre l'éclairage sur différentes façons, que différentes images de Jésus. Et en Jean 6, c'est Jésus est le pain de vie. En comparaison à la manne de l'Ancien Testament, Jésus est la manne du Nouveau Testament. Hein? Et c'est la discussion de Jean 6. Okay? Jean fait beaucoup d'allusions à l'Ancien Testament. Jean 1, au commencement était, c'est la Genèse du Nouveau Testament. Hein? Au commencement, Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa, au commencement était la parole, Jean 1. Et là, c'est la manne avec Jésus. Il y a d'autres endroits, il y a plein d'autres endroits qui parlent de Jésus comme étant un parallèle à l'Ancien Testament. Jean est vraiment brillant dans son écriture, dans la manière qu'il a fait l'Évangile. Et là, on arrive en Jean 6, il nous présente Jésus comme le pain de vie. Et au verset 26 de Jean 6, ça dit, « Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Il y avait des foules, il y avait des grandes foules qui suivaient Jésus. Vous savez, si vous lisez toute l'histoire, Jésus arrive de bateau, il y a déjà une grande foule qui l'attend, ils ont vu qu'il était parti, ils sont partis en courant, ils sont allés là, ils sont déjà, il y avait une grande foule. Et là, Jésus leur dit, Vous me suivez, c'est parce que vous avez eu un repas gratuit. Hein? C'est après la multiplication des pains. Hein? Vous avez été nourris, vous avez goûté une nourriture. Les gens sont friands des miracles. Les gens sont friands de... Vous savez, tantôt, pasteur Florian, il a parlé de la réunion de jeunes adultes. « Hey, il va y avoir de la bouffe. Hey, allez, on va y aller, il y a de la bouffe gratis. Hein? Pas de bouffe, on va y passer. » Hein? C'est pas que c'est le message n'est pas bon, mais tu sais, la bouffe quand même, la pizza ou je sais pas, peu importe ce qu'ils vont offrir, ça va être bon. OK, c'est sûr. OK, on est en train de planifier le ressourcement des groupes. Puis là, on est dans la méditation. Qu'est-ce qu'on va offrir à manger? OK, on est dans ça. On fait-tu de la pizza ou on fait juste une collation? Des beignes? Tu sais, qu'est-ce qu'on va donner? Il faut qu'il y ait de la bouffe. Et là, Jésus leur dit, vous me suivez parce que je vous ai donné à manger, là. Hein? Vous vous êtes trouvé ça le fun. Puis c'est correct parce que Jésus avait compassion de la foule. Il voulait rencontrer les besoins des gens. Il voyait cette foule qui était là. Puis il s'est occupé d'eux. Le verset suivant dit, travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu lui-même a marqué de son empreinte. Et au verset 35, Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus se présente comme le pain. Okay? Et juste si vous lisez le texte, on prendrait le temps d'étudier tout cela. Okay? La discussion vient sur le banc. Nos pains nous ont donné la manne. Toi, qu'est-ce que tu nous offres? Hein? L'enchère est montée. Hey, aux jeunes adultes, ils donnent de la pizza. Vous autres, au groupe, là, vous allez donner quoi? Oh boy, la marché haute, là, ils ont pizza. C'est quand même, hein, c'est coûte l'argent, puis il faut le payer, puis il y a le budget, puis ah, oh, ouais. T'sais. Là, nous autres, Moïse, là, il nous a donné la manne. Toi, qu'est-ce que tu peux faire, Jésus? Hein? Mais lui, il dit, je m'offre moi-même. Je suis le pain de vie. Celui qui va me manger n'aura jamais faim. Hein? Celui qui va me manger n'aura jamais faim. Et vous savez, la discussion continue après. Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, blablabla. Bla, bla, tu sais. Puis là, ça dit à la fin que plusieurs, après avoir entendu son discours, l'ont abandonné. Ah, ben oui, c'est exagéré, son affaire, là. C'est exagéré. Probablement, c'est peut-être ça qui va arriver quand on finit à matin, là. Il y a peut-être des gens qui vont dire, moi, je ne veux plus à l'église, là. Après, pasteur Jacques a parlé, là. OK? Parce que moi, je pensais avoir de la pizza, puis là, il est en train de me dire d'autres choses, là. OK? Si vous voulez être des disciples, si vous voulez vraiment avancer dans la foi, si vous voulez vraiment être nourri dans votre foi, il faut aller vers Jésus. Il faut aller vers lui. Il faut demander à Christ de nous nourrir. Et Jésus a ses façons. Jésus a des manières. Jésus a des moyens par lesquels on va être nourri. Et ça, ça va demander quelque chose de votre part. Jésus fait la sienne, mais vous, vous devez faire la vôtre. Il dit, travaillez, non pas pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Vous savez, quand je préparais mon message, c'est le mot qui m'a frappé le plus. Travailler. Travailler. Travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Travailler. Travailler. Ça ne dit pas, hey, elle va tomber du ciel, elle va arriver, puis elle est juste à accueillir. Ça dit travailler. Vous savez, le mot grec, dans le grec qui est là, il veut dire travailler. Ah non, mais je l'étudie, le grec, là. OK? Non, mais des fois, on fait des longues études sur le grec, là. Tu sais, le mot ergozomai, là, il veut dire travailler, œuvrer, faire, travailler pour, gagner par le travail, acquérir. En résumé, travailler. Ah non, mais vous allez vous en rappeler, hein. OK? Le mot travailler, qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, mais pasteur, on est sauvé par la grâce. Il n'y a pas d'œuvre. Si tout est accompli, les œuvres, c'est fini, là. C'est plus par les œuvres. Je suis d'accord avec toi, je ne me suis pas sauvé par mes œuvres. Je ne mérite pas d'être sauvé. Le ciel, c'est Dieu qui a payé le prix pour moi. Mais pour me nourrir, j'ai besoin de travailler. C'est ce que Jésus dit. Travailler, non pas pour la nourriture physique, mais pour celle qui subsiste. Il dit, travailler, c'est Jésus qui dit ça, c'est pas moi. J'ai pas inventé ça. J'ai pas sorti ça de mes proches, là. Ah, je vais leur dire ça, ça va être cool. Non, c'est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 6. Jean dit, de la part de Jésus, travailler pour la nourriture qui subsiste. À quelque part, vous, je, nous avons des efforts à faire pour nous nourrir. Vous savez, quand je suis chez moi, là, puis que la Bible est là, puis moi, je suis là, à quelque part, ça demande un certain effort de prendre ce livre-là, le tourner, l'ouvrir, et de dire, OK, j'ai commencé à lire. Ça demande un effort. Elle ne s'ouvre pas tout seul. Elle ne se met pas à jouer comme en audio, un audiobook. Là. OK, je me suis réveillé, l'audiobook part. Oh là, la Bible dit. Non, même si c'était un audiobook, il va falloir que tu le fasses sur Play à quelque part. Il va falloir que tu ailles chercher l'application. Il va falloir que tu la mettes en marche. Il va falloir que tu fasses un effort. Et non seulement la faire jouer, mais l'écouter. Et si tu la lis, bien, ça demande un effort de lecture. Pas vrai? Ça demande un certain effort, ça demande un certain travail, ça exige quelque chose de moi, ça exige quelque chose de notre part. On a un rôle à jouer, Jésus en a un, et vous aussi en avez un à faire. Quand Dieu m'a appelé au ministère, OK, j'ai un appel dans ma vie, c'est un peu bizarre, là. Oui, c'est vrai, on a des appels dans nos vies, Dieu nous parle et dans notre cœur, il y a quelque chose qui se passe, on dit, « Hey, j'aimerais t'utiliser pour être un pasteur, pour prêcher l'Évangile et tout cela. » Il a fallu que je réponde oui. C'est tout ce que j'avais à faire. OK, répondre oui à son appel. OK, il fallait que je dise oui. Mais quand j'ai dit oui, là, je dis, « OK, maintenant, je suis appelé au ministère. » Le ministère n'arrivera pas comme ça. OK, là, pour être pasteur, comment je fais? J'ai vu mon pasteur prêcher, j'ai vu tout ça, mais moi, je ne sais pas prêcher. Je ne connais quasiment pas la Bible. Alors, je me suis inscrit au collège biblique. Alors, je me suis inscrit parce que j'avais un effort à faire. Il fallait que j'étudie. Moi, le collège biblique que j'ai étudié, c'était 4 ans. Alors, j'ai fait 4 ans de collège biblique. 4 ans de collège biblique. J'ai tout fait mes études. Je n'étais pas appelé au collège biblique. J'étais appelé au ministère. Mais pour faire du ministère, il a fallu que je paye un certain prix, que je prenne 4 ans de ma vie à l'école puis que j'étudie. J'ai étudié la théologie, j'ai étudié les livres bibliques, j'ai étudié tout ça. Et on m'a appris comment prêcher, comment gérer, comment plein d'affaires. En plus, on m'a fait faire des stages. Ah ouais, hey, là, tu vas faire telle affaire. Là, on m'a signé un pasteur qui était avec moi, qui était un peu mon coach. Et là, on allait faire des visites de maison. Puis là, il me disait, OK, là, cette dame-là, qu'on va aller voir, elle a tel problème, laisse-moi parler, écoute. Mais à la fin, c'est toi qui vas prier. OK, je vais faire ça. À un moment donné, on visite une deuxième maison, puis là, il m'a dit, OK, elle, cette personne-là, c'est ça. C'est toi qui parles, c'est moi qui prie. Ah, ouais, non, mais je peux pas parler, je connais pas ça. Non, mais vas-y, je vais te baquer, tu sais. Maintenant, il m'a envoyé à une autre place, mais il dit, garde, vas-y, puis je vais t'attendre. Je savais qu'il y avait un piège, tu sais. Mais j'ai appris. Visite d'hôpital, des choses comme ça. À un moment donné, il m'a dit, c'est toi qui prêches à la réunion de telle affaire. Oh, wow, OK. Puis là, on m'a commencé à me faire prêcher. À un moment donné, ils m'ont vu que j'étais pas trop pire. Fait qu'ils m'ont dit, OK, tu vas aller prêcher au cégep tel, tu vas aller prêcher à tel autre endroit, tu vas aller prêcher. Là, ils m'appelaient n'importe quand. Jacques, es-tu disponible? On aurait besoin d'un prédicateur pour une évangélisation à telle place. Moi, je disais toujours oui. OK, c'est pour ça qu'ils m'appelaient tout le temps aussi, là. OK? Mais j'étais encore comme ça. Si quelqu'un me demande quelque chose, à part du temps, je dis oui, à moins que j'ai déjà dit oui avant d'autres choses. Quand on veut servir le Seigneur, on a tous des efforts à faire. Il a fallu que j'aille au collège biblique, il a fallu que j'étudie, il a fallu que j'apprenne à connaître la parole de Dieu. Mais savez-vous quoi? Je fais encore des efforts pour étudier, pour lire. Moi, je me donne le défi, c'est un défi personnel, là, vous n'êtes pas obligé de faire ça, là. Moi, je me donne toujours le défi de lire 12 livres par année à part de lire ma Bible. Il faut que je lise 12 livres. Okay? Je les note, je les coche, j'en choisis. Et à chaque année, il faut que j'aie un minimum de 12 livres de lus. OK, là, je suis rendu à 9. Donc, il m'en reste 3 à lire d'ici la fin de l'année, c'est pas si mal. Ça se peut que je dépasse cette année. Ça se peut. OK? Alors, c'est un défi que je me donne. Des fois, j'en garde ma liste de lecture que j'ai faite et oh boy, j'ai du retard. OK, là, fait que là, je me mets vraiment dans la lecture, OK? Je me garde du temps. Parce que pour moi, c'est important de garder mon cerveau toujours prêt, toujours à la fine pointe, de connaître les choses, d'être prêt, d'être capable de répondre à des questions, puis de grandir dans la connaissance de Dieu. Je peux pas m'arrêter. Faut que je fasse des efforts. Faut que je travaille. Est-ce que vous travaillez pour votre pain spirituel? Oui, mais ça va arriver, là. Ça va venir tout seul. Non, ça ne viendra pas tout seul. Il va falloir que tu fasses ta part, puis Dieu fait la sienne. Tu fais ta part, Dieu fait la sienne. Suivre Jésus, c'est exigeant. Suivre Jésus, ça coûte quelque chose. Hein? Rappelez-vous, Jésus a dit, si tu veux me suivre, il faut que tu portes ta croix. Si tu veux me suivre, tu n'es pas prêt à abandonner ci, abandonner ça, abandonner... Même des fois, c'est ta famille. Des fois, vous savez, moi, quand je suis né au ministère, on m'a donné... J'ai été assigné dans une petite église, dans un village de campagne. Il a fallu que je quitte mes amis, que je lâche toute ma gang de chums, tout ça. Puis là, je suis parti dans cette petite église-là. Il y avait 16 personnes dans l'église. J'avais un groupe, moi, dans mon église mère, de 40 personnes. Et là, j'avais une église de 16 personnes. C'était rétrograde, ça. Là. Pour moi, j'avais l'impression de baisser. Mais là, j'étais en charge de tout. Ça, c'était pas rétrograde. Ça, c'était tough. C'était dur. OK? Et là, je me suis dit, hey, là, j'ai pas le choix. Il va falloir que j'use mes genoux de pantalon. Il va falloir que je prie bien plus qu'avant. T'sais. Il va falloir que je m'y mette. Et là, j'étais sûr qu'avec tous les efforts que je faisais, il y aurait vraiment quelque chose qui se passerait. Mais après 2 ans, il y avait encore 16 personnes. T'sais. C'était dur. C'était dur. Je venais de me marier. Il y avait un petit bébé à travers ça. C'était dur. On payait un prix. On payait un prix. J'aurais pu rester dans mon église avec mon groupe. J'avais 3 cellules que je gérais, 3 groupes maison. Je m'occupais de plein de choses dans l'église. Je jouais la guitare, je jouais la musique hein, aussi. Donc, je faisais plein de choses. J'étais super occupé dans l'église. J'avais un beau ministère. Tout allait bien. Mais je dis non, moi, je suis appelé au ministère. Je suis sorti de ma zone de confort, puis je suis allé là. Je suis allé là pendant 2 ans et demi, ma première église. Des fois, je dis c'était mon purgatoire. Là. C'est là que j'ai appris. OK? Là, j'ai appris. Ensuite, je suis allé dans Beauce, l'église que je vous ai parlé tantôt. Là, on a implanté 2 églises. Okay? Alors, Dieu fait des grandes choses, mais il faut faire des fois des grands choix, des grandes décisions et payer le prix. Et je suis pas le seul. Il y en a plein ici que vous avez probablement fait des choix dans votre vie parce que vous êtes chrétien, parce que vous avez décidé de suivre le Seigneur. Vous payez un certain prix. Quand Jésus il est sorti du bateau, puis là, il a vu cette grande foule-là, ça dit qu'il fut rempli de compassion pour eux, chapitre 6, verset 34. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Jésus enseignait beaucoup de choses aux foules. Il enseignait plein de belles choses, il a donné des discours, plein de discours dans la Bible de Jésus devant les foules, le sermon sur la montagne, toutes ces grandes discussions que Jésus a faites. Des grandes foules suivaient Jésus, ils voulaient des guérisons, ils voulaient des meilleurs, mais Jésus avait compassion, puis il enseignait. Il leur parlait, il leur expliquait des choses. Mais il a fait aussi beaucoup de choses en plus petits groupes. Il n'a pas juste fait des choses dans des grandes foules, il a fait aussi des choses dans des petites foules, des petits groupes. Vous savez, Dieu n'agit pas juste dans la grande assemblée. Dieu agit aussi dans des petites assemblées. Dieu fait des choses dans l'Église qu'il ne peut pas faire dans un petit groupe, puis il y a des choses que Dieu fait dans les petits groupes qu'il ne peut pas faire dans une grande assemblée. Avez-vous remarqué ça? Ben, si vous n'allez pas dans un petit groupe, vous ne l'avez pas remarqué. Mais si vous alliez dans un petit groupe, vous remarquerez que Dieu fait des choses extraordinaires dans les petits groupes qu'il ne fait pas dans la grande assemblée, que vous ne pouvez pas encore expérimenter parce que c'est en petits groupes que ça s'expérimente. Il a fait beaucoup de choses dans des petites foules, loin de la foule même parfois. Vous savez, la multiplication des pains, il y avait une grande foule, mais quand est venu le temps de multiplier les pains, la Bible dit qu'il a divisé la foule en groupes. Il a enseigné en foule, mais il les a nourris en groupe. Intéressant. Il a enseigné en foule. Vous savez, ce matin, on se fait enseigner, on se fait exhorter. Mais si vous discutiez de ce message-là en petit groupe, vous allez apprendre encore bien plus. Vous allez le disséquer, vous allez faire des petites bouchées, vous allez avaler, vous allez dire, « Wow, ça m'a vraiment fait du bien. » Alors, il leur ordonnait de les faire asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils étaient assis en groupe, et c'est là qu'il a multiplié les pains. Je trouve ça intéressant, on pourrait faire tout un autre discours là-dessus. Vous savez, quand une foule a faim, okay, imaginez que ça fait déjà un bout de temps qu'ils suivent Jésus, ils sont là, ils ont voyagé, ils ont marché beaucoup, il y a des femmes, il y a des enfants, et c'est des milliers de personnes. Là, okay? Il y a des endroits que ça dit qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes, des fois dans la foule. C'est pas juste une petite affaire, là, okay? C'était pas juste la petite réunion. Okay? Il y avait des dizaines de milliers de personnes. Et là, imaginons, okay, on n'était pas là, mais on peut imaginer là, tu sais, que là, il y a des milliers de personnes qui suivent Jésus, puis là, il arrive 6 heures le soir, là, les enfants commencent à crier, « Maman, j'ai faim! Hein? » Puis là, sa femme a dit, « Chérie, on n'a plus rien, là, la boîte à lunch est vide. Tu sais, faudrait aller acheter quelque chose. Penses-tu qu'à cette heure-là, IGA est encore ouvert? Tu sais? Ah, oui, IGA, dans ce cas-là, on imagine, là, tu sais, on s'imagine là, que. Tu sais, mais il ferme à 9 h. Mais oui, mais c'est passé 5 km à pied hein, pour y aller, puis revenir, il fait 10 km de marche, les sacs, toute l'affaire. Je ne pense pas que ça va être possible d'y arriver avant que ça ferme, puis de revenir avec le lunch. Puis là, regarde, ils ont mangé la dernière bortande. Les enfants crient, tu sais, ils ont faim. Puis là, tout le monde commence à... Puis là, le beau-frère arrive, parler avec son beau-frère. « Hey, toi, comment tu vas faire? Penses-tu qu'on pourrait se commander quelque chose puis le faire venir par, tu sais, Uber Eats, peu importe quoi, tu sais? Ils vont venir livrer. Mais ouais, mais on n'a pas d'adresse, le téléphone, il pogne pas ici. OK, il n'y a rien que je peux faire, tu sais. On peut pas se nourrir ici, c'est vraiment impossible. Puis là, tout le monde, ça se met à jaser. Puis là, on entend... Tout le monde, ça puis là, tout le monde essaie de trouver des solutions. Puis là, d'un coup, il y a des disciples. « OK, gang, assoyez-vous! » On n'a pas le temps de s'asseoir. Nous, on cherche des solutions. On veut régler les choses. Et Jésus leur dit, « Faites-la asseoir. » C'est difficile, des fois, de se faire asseoir. Hein? De se faire asseoir. Si je vous dis, « Hey, allez vous asseoir dans un groupe. Hein? On n'a pas besoin de ça, nous autres. Ah, nous autres, on sait comment ça marche, la vie chrétienne. Ah, on sait comment se nourrir les groupes. On n'a pas besoin de ça. Ah non, allez vous asseoir dans un groupe. » Oh, hey, ben là, tu savais, nous autres, on sait comment ça marche. Allez vous asseoir. C'est là que Jésus va vous nourrir. C'est là que Jésus va vous nourrir. Sa Bible dit qu'il les fit asseoir. Il est mis en petit groupe. Vous n'êtes pas convaincu, hein, des petits groupes? Je vous regarde, là, vous avez là. Non, il essaie de nous embarquer dans quelque chose, puis là, non. Vous n'êtes pas convaincu que c'est biblique? Que c'est biblique? C'est pas juste une question. Hey, moi, je prêche parce que je suis un pasteur de groupe, puis je veux avoir ramassé d'autres groupes ici, puis je vais mettre ça dans ma fiche, puis je vais pouvoir dire, hey, on est rendu à 204 groupes, parce que j'en ai eu 4 à Châteauguay, là. Yes, sir! Vous savez, moi, je n'ai rien à cirer qu'il y en ait 4 de plus ou 5 de moins. C'est pas mon problème. Moi, c'est ce que je veux, c'est que vous soyez nourris. Que votre vie devienne encore meilleure, puis que la vie d'Église soit meilleure, parce que la répercussion des groupes se reflète sur l'ensemble de l'Église. Et l'ensemble de l'Église se reflète sur la vie des groupes. On travaille ensemble. On travaille ensemble. Vous n'êtes pas convaincus? Les évangiles, vous savez, si vous lisez les évangiles, prenez des notes. Ça arrive des fois, vous lisez les évangiles, j'imagine. OK. Alors, quand vous lisez les évangiles, notez toutes les fois que quelque chose se passe dans une maison. Vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Vous ne croyez pas? OK, premier exemple. Marc 1, verset 29-31. « En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et André. » Ils ont sorti de la synagogue, ils ont sorti de la réunion. Après ça, ils sont allés dans la maison de Simon et d'André. Simon, c'est Pierre, là, son frère. Okay? Et là, la belle-mère de Pierre était malade. Bon, est-ce que c'était la femme de la mère de sa femme ou est-ce que c'était l'épouse de son père qui, elle, n'était pas sa mère? En tout cas, je laisse avec ça. OK? Je vous laisse vous casser la tête avec ça. OK? Alors, elle était malade, puis là, Jésus l'a guéri dans la maison. C'est dans la maison que ça s'est passé, ce miracle-là. Il y a des miracles qui se faisaient dehors, dans les foules, mais il y en avait dans les maisons. Un autre exemple? OK. Marc 2, 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et un grand nombre de personnes se rassemblèrent, car il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et moi, j'aime ça quand un groupe me dit « il n'y a plus de place ». Il n'y a plus de place, c'est plein. Là, écoute, on ne sait plus où ils s'asseoir. Il y en a jusqu'à n'importe. Il y avait un groupe, là. OK, Jésus était à Capernaum. OK, Capernaum, là, c'est le quartier général. OK, c'est la place que Jésus allait tout le temps. Vous allez voir dans la Bible, à Capernaum, il allait dans les maisons. Il y avait sa place, il y avait une maison. Jésus allait toujours à la même place. Il allait dans cette maison et on a appris qu'il était là et les gens sont venus. La maison était pleine. Ça plaît à craquer dans cette maison-là. Et là, il y a des gens qui ont entendu dire que Jésus était là. Alors, ils ont pris quelqu'un, il y avait un paralytique, quelqu'un qui était malade. Ils l'ont mis dans un grabat. Il y avait pas de place passée. Ils ont monté sur le toit. Ils ont fait un trou. Ils l'ont descendu devant Jésus. Et Jésus l'a pardonné ses péchés et ensuite l'a guéri. C'est dans une maison que c'est arrivé. C'était pas dans une réunion d'église, une réunion d'assemblée d'église, là. C'était dans une maison. Et cette guérison-là est arrivée. Vous n'avez pas l'air convaincu encore. Un autre exemple. Marc 5. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte. Vous savez, c'est là qu'il va guérir sa fille du chef de la synagogue, la fille de 12 ans. Tu sais, la phrase « Talita Kumi », ça dit ça. « Talita Kumi ». OK. « Talita Kumi ». OK. Je ne sais pas comment il disait ça, mais ça a l'air dramatique, juste cette phrase-là. « Talita Kumi ». OK. Je ne sais pas. OK, j'étais pas là. Non, mais c'est vrai, c'est juste la phrase en elle-même. Mais ça s'est passé encore dans une maison, la maison du chef de la synagogue. Un autre exemple? Il faut que je convainque. Okay. Marc 7. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Vous savez, c'est la place où c'est cette femme qui a une fille qui est possédée. Okay? Et là, elle va aller dans cette maison-là, c'est pas une juive. Et les disciples, quand ils la voient arriver, ils la rabrouent, ils la repoussent. Et là, c'est celle-là qui va dire, « Oui, mais les petits chiens mangent les graines au-dessus de la table, en dessous de la table. » Et là, Jésus va dire, « J'ai jamais vu une si grande foi, même en Israël. » Et il dit, « Va, ta fille est guérie, elle est délivrée. » C'est dans une maison que ça s'est passé. Hein? C'est dans une maison que tout ça. C'est quand même quelque chose. Pas convaincu. Hein? Un autre exemple. Marc 9, vous la connaissez celle-là. Jésus prit avec lui Jacques, Pierre, Jean-Jacques. Vous savez l'expression quand on dit ça au Québec, là? Hey, Pierre, Jean-Jacques, tu sais, c'est là que ça devient. OK? Alors, non, mais c'est vrai. OK? Pierre, Jean-Jacques, OK? Ou Pierre, Jacques et Jean, il les conduit seuls à l'écart sur une autre montagne et il fut transfiguré. C'est intéressant qu'il fut transfiguré avec trois personnes. Il avait rassemblé trois personnes, c'était son groupe à lui, son groupe intime. Il y avait les 12, OK? Mais dans les 12, il y avait les trois. Il y avait les 12, il y avait les 70, puis il y avait tous les autres disciples. Mais dans ça, il y avait son petit groupe à lui, ses trois, et il y avait ses 12, OK? Les 12 qui étaient les apôtres. Puis dans ces 12, il y avait ses trois, hein? Pierre, Jean, Jacques. Et c'est avec eux qu'il a été transfiguré. Intéressant parce qu'il se passe des choses dans des groupes qu'on ne se passe pas ailleurs. Puis on va connaître Jésus d'une façon différente quand on se rassemble en groupe. On va avoir une relation très intime avec Jésus puis avec ses frères et ses sœurs-là. Puis on va pouvoir se confier, on va pouvoir partager, on va pouvoir échanger. Puis ensemble, notre relation avec Dieu va grandir, va se développer, nous faire voir Jésus comme on ne l'a jamais vu. C'est important, les petits groupes. Un autre? Ah, mais il y en a plein. C'est dans la Bible. On peut faire de l'avant-midi là-dessus. OK? Marc 9. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus demanda, « De quoi discutez-vous en chemin? » Vous savez, Jésus, qui est le plus grand? OK? Et c'est là que Jésus a commencé à expliquer, c'est pas comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu, puis à parler des enfants, puis tout ça. Hein? C'est là qu'il les a enseignés. C'est, de quoi vous jasiez, donc? Dans le groupe, c'est ça qu'on fait. On corrige des choses, on s'enseigne, on partage, on échange. Il y a des vérités qu'on apprend, qu'on développe. On a peut-être des concepts tout croche, puis là, on le partage avec l'autre. Mais non, c'est pas comme ça. Garde la Bible enseigne. Garde la Bible dit. T'as pas entendu le message dimanche? Regarde, ce que Pasteur Florian avait dit. C'est ça, la parole. T'sais. C'est comme ça. On corrige des choses, on apprend des nouvelles choses, on développe des choses. C'est important. Encore ici, ils étaient à Capernaum, dans le quartier général de Jésus. Marc, chapitre 14. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Vous savez, c'est cet endroit où cette femme est venue, puis elle a versé du parfum sur les pieds de Jésus, et ça dit toute la pièce était pleine de parfum, ça sentait. Ça se passait dans une maison. C'était la maison. Ça s'est fait là, à la maison de Simon le lépreux. Vous savez, quand il y a eu un banquet pour Lazare, quand Lazare était ressuscité, c'est dans cette maison-là aussi que c'était. Là, si vous lisez l'histoire dans Jean, vous allez voir, c'était dans la maison de Simon le lépreux. Il était lépreux, probablement c'est un lépreux guéri. OK, c'est probablement ça. OK, alors on connaît l'histoire. Marc 7. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Oh, moi, celle-là, je l'aime. Lorsqu'il fut rentré à la maison avec les disciples, et là, les disciples ont dit, « Hey, Jésus, tu sais, la parabole du semeur, on ne l'a pas compris. » Là, j'ai dit, « Mais, ils n'ont pas compris la parabole du semeur, imagine les autres. » Non, non, mais non, il partait de bas. Fait que là, il a pris le temps de leur expliquer. Hein, on a l'explication de toute la parabole du semeur qu'il fait aux disciples. Les applications qu'il doit y avoir, parce que Jésus expliquait tout à ses disciples. En Marc 4, ça dit, il ne leur parlait point en parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Wow! Vous n'avez pas envie de faire partie d'un groupe? Ça ne vous donne pas le goût ce matin? Hey, il expliquait tout à ses disciples, dans particulier. Ça veut dire que quand on est en petit groupe, on peut avoir des explications, on peut avoir des réflexions, on peut poser des questions, on peut prier ensemble, partager nos besoins, échanger des paroles, échanger des promesses, échanger nos fardeaux, parler de nos révélations, parler de comment est-ce que Dieu nous a bénis, parler de comment est-ce qu'on se sent des fois oublié, puis qu'on a besoin que d'autres nous supportent. Ça se passe dans un petit groupe. Oui, mais disons, on le fait aussi un peu à l'Église. Moi, je fais un peu à l'Église, mais on le fait intensément dans les petits groupes. Hein? On fait un peu d'enseignement dans les petits groupes, mais on le fait plus intensément à l'Église, à l'Assemblée. On le fait plus intensément. C'est pas un contre l'autre. C'est pas un ou l'autre. C'est ça nous prend l'Assemblée et ça nous prend le petit groupe. C'est pas comme, ben, je viens déjà dimanche, j'ai pas besoin de ça. C'est sûr que si je n'avais pas d'assemblée, un petit groupe, ça m'aiderait, une église maison, là, tu sais. On n'a pas d'église maison, nous autres. On a des petits groupes dans lesquels des membres d'église s'assemblent. On est une église de petits groupes. On n'est pas une église qui est juste des petits groupes, dans lesquels il y a des groupes. On ne pense pas qu'il va y avoir 100% des gens dans l'église qui vont être dans les petits groupes. On aimerait bien qu'il y ait beaucoup de monde de l'église qui sont dans les petits groupes. C'est important. J'ai mis un graphique, j'ai fait un triangle pour illustrer bien ça. Okay? On voit dans la première partie du triangle l'assemblée. L'Assemblée, c'est nous, ça, c'est le dimanche. L'Assemblée. Vous savez, je pense que chez le monde chrétien, il y a quelque chose peut-être qu'on comprend mal ou qu'on saisit mal. On ne vient pas à l'Église. Vous n'êtes pas venu à l'Église ce matin. L'Église est venue ici. Wow! Belle chante, cette phrase. Toi. Hein? Ça me semble que ça punch, cette phrase-là. Il faut la mettre dans les réseaux. Tu ne viens pas à l'Église. C'est l'Église qui vient ici. C'est important de comprendre ça. Okay? Ça, c'est super important parce que, dans le fond, nous sommes l'Église. Et on est l'Église dans un petit groupe, on est l'Église le dimanche, on est l'Église le samedi quand on est à Nueva Vida, on est l'Église et l'Église s'assemble. Vous remarquez dans les actes, il y avait des assemblées de l'Église. Les croyants s'assemblaient. Ils s'assemblaient. On s'est assemblés ce soir. Vous savez, quand je parle d'assembler quelque chose, moi, je suis en train d'assembler un casse-tête. Quelqu'un m'a donné un cadeau, un casse-tête de 2000 morceaux, et c'est une photo de ma famille, okay, de mes enfants, mes petits-enfants. Ils m'ont fait faire ça, puis ils m'ont donné ça en cadeau. La photo est super, là, tu sais. 2000 morceaux, là, c'est la table de cuisine. Là. Ma femme a commencé à être tannée que la table de cuisine a ça dessus, là, tu sais. OK, ça fait un mois que je suis là-dessus. T'sais? OK, il faut assembler les pièces. C'est un assemblage. OK, chaque pièce, elle a un endroit à être. OK, c'est pas la pièce, même un morceau, une pièce de casse-tête noire, c'est plate. C'est cela que tu mets à la fin. Tu es même à part dans un plat, tu dis, à la fin, là, quand je serai vraiment écœuré, je n'aurai pas le choix, je vais aller avec les noirs. T'sais? Ou le ciel bleu. C'est le bleu, quand c'est juste bleu, bleu. Okay? Moi, j'aime ça faire des casse-têtes. Okay? Mais je fais toujours des 1000 morceaux. Je sais qu'en une semaine, c'est fait. Okay? Là, j'ai un 2000 avec une photo qui est pixelisée au max. Là, t'es foutu de brouille, là, t'sais, parce qu'il l'a agrandi. Ça fait que c'est pas évident. Là, t'sais, la face d'un puis la face d'un autre, là, c'est tout pareil quasiment. Là, t'sais. C'est juste quand les morceaux arrivent tous ensemble, qu'on dit, aïe, je reconnais la face. Mais c'est la même chose avec le corps de Christ. Quand les morceaux se mettent ensemble, on reconnaît la face de Jésus. Mais quand je regarde tout seul, des fois, je me dis, ah, c'est pixelisé, c'est normal. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est ensemble. On a besoin de l'assemblée, mais j'ai aussi besoin des petits groupes. Là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est toujours l'Église, on est toujours ensemble. Mais il y a différents rôles, différentes actions, différents besoins qui sont rencontrés. Et j'ai besoin aussi d'une vie personnelle avec Dieu. Okay? Ça se fait tous les jours. Tous les jours, je dois avoir ma relation avec Dieu. Je dois lire la parole, je dois prier. C'est les efforts que je dois faire. Je dois faire un effort de lire, je dois faire un effort de prier. Je dis, oui, pasteur, moi, je ne suis pas un grand liseur. Oui, mais essaie de lire un verset. Inscris-toi à des applications en ligne où ils vont t'envoyer le verset, puis tu as juste à le lire. Tu le reçois sur ton téléphone, tu dis, OK, c'est le petit texte à lire avec une petite pensée. Au moins, fais quelque chose. Commence à faire un effort. Oui, mais moi, de prier, c'est dur. Oui, mais regarde, commence à dire, Seigneur, bénis ma journée, sois avec moi aujourd'hui. Tu conduis ton travail, Seigneur, sois avec nous, sois avec mon épouse, bénis ma famille. Commence là. Ça va prendre 2 minutes. Peut-être qu'après, tu vas être capable de faire 3 minutes. Peut-être qu'après, tu vas avoir le goût de lire un petit peu plus. Peut-être que tu vas aller dans YouVersion, puis tu vas dire, aïe, aïe, ça a l'air tellement bon, ça, je pense que je vais faire ça, c'est 12 jours sur tel sujet. Wow! Commence à quelque part, fais un effort. Inscris-toi à un groupe! Inscris-toi à un groupe! Dans un groupe, on appelle les 3 C, connaître, connecter, contribuer. Connaître Dieu de plus en plus. Je veux connaître Dieu dans ma relation personnelle avec lui, je veux le connaître mieux. Je veux connecter, ça c'est le rôle d'un petit groupe, connecter. On veut connecter avec des frères et des sœurs. Hein? Contribuer, ah, c'est ce qu'on fait. On vient à l'Église, on vient à l'Assemblée, l'Église ensemble, on va contribuer à l'œuvre de Christ. Je vais m'impliquer, soit avec les enfants, je vais m'impliquer à l'Église. Le dimanche, je vais faire quelque chose, ou encore en dehors de l'Église, dans une banque alimentaire, dans d'autres endroits, pour servir le Seigneur. Mais il faut commencer avec connaître Dieu, connecter, contribuer. Connaître, connecter, contribuer. C'est important. C'est important. Quand Jésus a fait la multiplication des pains, Il a dit, faites-le asseoir. Là, il a prié avec les disciples. Il a dit qu'il a rendu grâce. Il a pris les pains, il a pris les poissons, il a rendu grâce. Puis ensuite, il les a donnés aux disciples. C'est intéressant parce qu'il dit, en Luc 9:13, il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Moi, je trouve ça intéressant. C'est comme si Dieu nous demande de faire quelque chose encore. C'est dans un groupe, c'est ça qu'on fait. Peut-être que vous avez un rôle d'animateur de groupe, je ne sais pas, moi. Peut-être Dieu vous appelle à donner à manger, de partager le pain, de partager le message du dimanche avec quelqu'un d'autre. Peut-être Dieu vous appelle à se donner là vous-même. Oui, mais là, moi, qui suis-je? On va te former, on va te montrer comment. On a une formation, on a un coach qui va t'accompagner, on va te donner un stage pour apprendre à le faire avec d'autres. Puis après ça, on va te dire, vas-y, essaye-le. Commence. Essaye. Donne-leur toi-même à manger. Jésus prit les pains et remercia Dieu. Il les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua aussi les poissons autant qu'ils en voulurent. Vous savez, le miracle de la multiplication des pains que Jésus a fait, s'est fait par les mains des disciples. Vous savez, Jésus n'a pas pris un pain, il l'a multiplié en deux, puis il l'a donné à deux, puis il en a pris un autre. Non, il a dit, OK, Seigneur, bénis ces pains-là, puis il les a donnés aux disciples. Les disciples sont partis avec ça, puis il y avait toujours du pain. Le pain se multipliait à travers les mains des disciples. C'est à travers eux que le miracle s'est fait. Jésus n'a pas multiplié. OK, j'en ai combien là? Comment t'en veux combien de plus? Comment t'en fabriquer? Là, j'ai 5 000. C'est bon, 5 000. Il en mange deux chaque. OK, 10 000. Non, il a dit, OK, on bénit Seigneur le pain. Il a pris le pain, il l'a multiplié pour les 12 qui étaient là. Puis là, on commence à partager ça. Puis ça se multiplie à travers eux. Vous savez, les seules mains des fois que les gens vont pouvoir serrer de Jésus, c'est la tienne. Le seul vrai visage de Jésus, souvent, que les gens vont voir, c'est le tien. On a besoin, nous, d'être là. On a besoin de servir, on a besoin de dire oui. On a tous un rôle à jouer. Les disciples ont reçu le pain des mains de Jésus et eux devaient le distribuer à un petit groupe. Pour donner, il faut recevoir. Il faut se nourrir pour nourrir les autres. Les gens bénis sont des bénédictions. Soyez bénis. Oui, mais si je pourrais être béni, qu'est-ce qu'il faut faire? Travailler. Hello? Le miracle de Jésus se fait bien souvent par nos mains. Il y a un couple qui est arrivé à l'église Nouvelle-Ville-la-Prairie il y a quelques semaines. Le samedi soir, ils se sont dit, « Hey, on devrait aller à la messe cette semaine. » Ça fait des années qu'on n'a pas été là, puis il me semble que ça nous ferait du bien d'aller à la messe. Fait qu'ils ont programmé leur GPS pour aller à l'église catholique, à la Prairie, dans le Vieux-La Prairie. Ils ont programmé leur affaire, puis ils sont partis dimanche matin. Puis le GPS les a conduits à Nouvelle-Vie-La Prairie. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas l'Église catholique, ça? C'est quoi cette affaire-là? T'sais, ils sont arrivés dehors. Puis là, lui a dit, bon, on s'est trompé, là, on va s'en aller. T'sais. Elle a dit, non, mais elle dit, écoute, on cherchait une église, on dit, on voulait aller à une réunion d'église. On est là, peut-être que c'est le bon Dieu qui nous a amenés ici. Fait qu'ils sont rentrés. Ils sont assis dans la réunion. Pasteur Ben a prêché. Quand il a eu fini, on dit, « Coudon, étiez-vous dans notre salon samedi soir, vous? Vous avez parlé exactement de quoi on a jasé? » OK? Et là, ils étaient vraiment touchés. Ils sont venus le dimanche suivant. Ensuite, on les a dit, « Hey, ça sera bien pour vous de faire... » Tu sais, ils ne connaissaient rien, là. Ils ne connaissaient rien, les autres, là. Rien de la foi, là. Ils sont flambant en eux. C'est fun, là, ce temps-là. Là, on peut y prendre comme il faut, là. T'sais. Alors, on leur dit, « Hey, on va vous inscrire à l'ABC de la foi. Vous savez, c'est nos petits cours pour les nouveaux. Okay? On va vous mettre un animateur. Okay? Puis lui, il va s'occuper de vous. 4 rencontres avec lui. Fait que là, Nicolas, qui est un de nos enseignants, il a dit, moi, je vais le prendre. Fait qu'il a pris le petit couple. Il a fait 4 réunions avec eux autres. Et là, ce petit couple-là, ils ont été hyper touchés dans l'enseignement de Nicolas. Okay, qui, lui, leur partageait le salut, c'est quoi la prière, c'est quoi la foi, c'est quoi la Bible, tout le kit, puis c'est quoi, quand on va à l'église prendre la Sainte-Seine, c'est quoi le baptême? Et là, on a un baptême le 17, ils se font baptiser les deux. Parce qu'il y a quelqu'un. Yes, yes. Parce qu'il y a quelqu'un qui, à quelque part, qui a dit, je vais le faire. Il y a quelqu'un qui a dit, moi, je vais prendre 4 rencontres avec eux autres en Zoom ou peu importe comment, puis je vais les rencontrer, je vais payer le prix, je vais travailler pour ça, et ces gens-là ont été touchés. Et ces gens-là ont été touchés par Jésus, pas par Nicolas. Et ils se font baptiser parce qu'ils prennent une décision pour Jésus. Le miracle s'est fait à travers ses mains, mais c'est Jésus qui les a touchés. On a un couple à l'église, super beau couple. 2 ans qui viennent à l'église, ils sont super impliqués. Jean-Luc et Dorcas. Dorcas est enceinte, était enceinte, OK, à l'accoucher. Elle était dans les 2 jours avant l'accouchement, OK, 2-3 jours. Elle se couche le soir, elle entend un bruit durant la nuit, elle se lève, le feu est dans la cuisine, dans sa salle à manger, c'est en flamme. Ils ont juste le temps de sortir. La maison, perte totale. Perte totale, il ne restait plus que le solage. Okay? Ça a brûlé au complet. Ils ont un autre enfant aussi. Là. Ils ont juste le temps de sortir de la maison a brûlé au complet. Okay? Supposément qu'il y a quelqu'un derrière qui avait fait un feu le soir, puis des brindilles, des étincelles, en tout cas. Ça aurait fait que l'incendie s'est propagé. Le premier recours qu'ils ont eu, Jean-Luc est dans un petit groupe. Les membres du groupe, ils se sont tous appelés. Puis on dit, écoute, il faut qu'on aide Jean-Luc et Dorcas. Ils ont trouvé des vêtements pour les enfants, ils ont trouvé des petites choses, ils ont essayé de les accompagner le mieux possible, ils ont fait une collecte entre eux autres pour les aider pour les premiers jours. La Croix-Rouge était là, bien sûr, mais eux autres, ils ont fait la différence. À l'accoucher le surlendemain de tout ça, tout était brûlé, là. Tout ce qu'ils avaient préparé pour le bébé, tout ça a brûlé. Trouver encore un lit, trouver des vêtements de bébé, trouver toutes les petites choses. C'est le petit groupe qui a fait ça. C'est le petit groupe. Sans qu'on dise, hey, l'Église, on va se mobiliser. Non, le petit groupe avait déjà fait. Nous, hey, Pasteur Ben, nous autres, on était en comité, ils m'ont dit, hey, il faudrait faire aider. D'un coup, on parle avec Yves, qui est le responsable de ce groupe-là. Ah, on a déjà fait ça, on a déjà fait ça, on a déjà fait ça. C'est fort, un petit groupe, hein? C'est fort, un petit groupe. Ce que Jésus fait à travers un petit groupe. Comment eux autres, ils vont dire, Jésus a pourvu à mes besoins lors de l'incendie. Nous, on va dire, le petit groupe s'est débrouillé pour les aider. Travailler, ça demande des efforts. Ça demande des efforts. Je t'invite ce matin, j'invite François et les amis de s'avancer pour la musique. Je vous invite ce matin à considérer cet automne faire partie d'un groupe. On a besoin de groupes ici à Châteauguay. On a besoin de plus de groupes. On a besoin des gens qui disent, je vais prendre le temps. Oui, peut-être que tu as peur, tu dis, écoute, toutes les semaines. Ça peut être un groupe aux 2 semaines. Mais je ne vais pas voyager. Mais ça peut être un groupe en ligne, en Zoom. Ça peut être en présentiel dans une maison. Peu importe. Assemble-toi en groupe. Peut-être tu dis, mais j'aimerais ça, moi, l'affaire, te parler ABC de la foi. Là. On a besoin d'animateurs d'ABC de la foi à Châteauguay. On a besoin de former des personnes prêtes à enseigner les nouveaux croyants parce qu'on croit que Dieu va donner une grande moisson d'âmes. Puis, vous savez, on a 187 animateurs d'ABC de la foi dans tout le Grand Nouvelle-Vie. On me dit, hey, c'est beaucoup. On n'en a pas assez. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de nouveaux. Beaucoup de nouveaux. On a besoin de vous. Oui, mais ça va demander, ben oui, travailler. C'est du travail. Ça veut dire qu'il faut que tu donnes du temps, que tu donnes 4 rencontres avec cette personne-là. Puis cette personne-là, après, ça se peut qu'elle t'achale avec des questions. Ça se peut que le dimanche, qu'elle vienne te voir. Hey, tu peux-tu me. Tu sais, c'est telle question que j'ai lue dans la Bible. Ça se peut, c'est fatigant, ça. Hein? Ça se peut qu'elle veuille s'asseoir tout le temps avec toi le dimanche à l'église aussi. T'sais, ça va être plate parce que tu es habitué de t'asseoir avec tes amis. Mais là, ça se peut que ça soit ton nouveau. Ça, c'est poche. Hein? Non, mais c'est tout, on veut tout ça. Hein? On veut tout avoir des nouveaux avec nous autres, des gens qui aiment Jésus, des gens qui commencent dans la foi, puis être un peu le parrain, d'être le mentor, d'être leur aide spirituelle jusqu'à ce qu'eux autres m'aiment. Dernier témoignage de cette jeune femme qui est arrivée à l'église et qui était toute nouvelle. Et on l'envoyait à l'ABC de la foi parce qu'elle avait plein de questions, puis elle était toute mêlée. elle a fait de l'ABC de la foi. Elle était vraiment touchée là-dedans. Elle a vraiment compris le salut. Elle est née de nouveau dans l'ABC de la foi. Elle s'est fait baptiser. Après qu'elle s'est fait baptiser, elle dit, « Oui, mais après, je fais quoi? » Ben, on a un autre cours qui s'appelle « Comprends-tu ce que tu lis? » Elle a fait tout le programme « Comprends-tu ce que tu lis? » 5 semaines en petit groupe. À la fin du « Comprends-tu ce que tu lis? » on les invite à devenir membres de l'Église. Ben, elle est devenue membre de l'Église, ça n'a pas été long. T'sais. Elle dit, « Moi, je veux devenir membre de cette Église-là parce que c'est trop bénissant. » Elle est devenue membre. Okay? Elle est devenue membre et tout cela. Et là, c'est Pasteur Luc Poirier, vous savez, le trésorier de l'Église, qui l'a rencontré en entrevue de membre. Puis il a dit, hey, t'es extraordinaire. Fait qu'il a appelé Pasteur Hélène, puis il a dit, mon épouse, puis il a dit, hey, Hélène, cette femme-là, elle sera bonne avec vous autres. Elle pourra peut-être faire des téléphones, tout cela. Elle est vraiment bonne dans plein de choses. Hélène, oh, on dit des affaires. Nous, on ne connaît pas les jeunes. Nous autres, on veut les connaître avant de les impliquer. Fait que, bon, Hélène jase avec. Ben, je ne suis pas trop sûr. Mais là, la madame, ben, ouais, mais je veux quand même continuer. Je vais faire comprends-tu ce que tu lis, qui est l'autre programme qui se voit, est à toi. Elle a fait comprends-tu ce que tu lis. Et là, d'un coup, on s'est rendu compte que cette femme-là est super zélée. Elle aime Jésus. Elle est vraiment sérieuse. Et maintenant, c'est une de nos téléphonistes à l'église, c'est elle qui fait le service à la clientèle. Autrement dit, quand tu rentres dans un groupe, après 4-5 semaines, il y a quelqu'un qui appelle et dit, « Es-tu satisfait? Est-ce que tu l'aimes ton groupe? Est-ce que tu es à l'aise là-dedans? Est-ce que ça, t'es vraiment bien dans ce groupe-là? Est-ce que tu aimerais qu'on te change de groupe? Celui-là, ça va. » C'est elle qui fait tous ces appels-là. Wow! Wow! Mais ça m'a pris quelqu'un pour faire l'ABC de la foi avec. Ça prend quelqu'un pour faire comprendre ce que tu lis. Ça prend quelqu'un pour faire tous les cours, tous les programmes. Ça prend des gens qui payent le prix, qui disent, moi, je vais le faire. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à cet appel-là ce matin? Ça veut dire, ça coûte quelque chose, mais dites-vous une chose, que Dieu est avec vous et qu'il est fidèle et qu'il va vous aider. Il va vous aider dans toute cette chose. Il ne faut pas avoir peur de s'impliquer. Dites-vous, la fidélité de Dieu est toujours là, à chaque moment. Et dans tout cela, vous allez être bénis parce que Dieu est fidèle. Je vais laisser François chanter.